Donc, je veux simplement indiquer, donc vous avez tous eu le programme des cours, donc je rappelle simplement que c'est bien un cours, donc je vais suivre le programme, mais je ne suis pas complètement sûr de tenir les délais, donc ce n'est pas des conférences qui se succèdent, c'est un cours. Donc ça veut dire que tout à l'heure, je vous distribuerai une bibliographie, donc vous êtes invités à travailler de manière à ce que la deuxième heure soit utile dans la discussion et dans l'approfondissement de ce qu'on aura vu depuis le début et au cours de la première heure. Donc je vais commencer, donc on va faire, vous avez le programme de l'Université Populaire, donc je vais commencer en précisant quel est l'objectif du cours, rapidement. Donc on pourrait dire que l'objectif du cours renvoie à une question, donc une question assez simple, qui va nous servir de guide tout le long, entre autres choses, tout le long des cours, des séances. Donc le but, c'est d'explorer, de discuter les significations, les différentes significations que la naissance et l'histoire des trois monothéismes peuvent prendre pour nous aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est de discuter les significations des trois monothéismes pour nous et aujourd'hui. Donc le point... Je vais faire donc une petite remarque introductive. Le point important, c'est l'ambiguïté, elle repose sur la notion de « pour nous ». C'est-à-dire que c'est une formule beaucoup trop générale et assez imprécise. De qui parle-t-on lorsqu'on dit « pour nous » ? Est-ce que nous, c'est nous qui sommes dans cette salle ou les millions et les milliards de moi et de nous qui n'y sont pas ? Donc le premier point que je voudrais souligner, c'est que ce « pour nous » est extrêmement divers, éclaté et contradictoire. La naissance et l'histoire des trois monothéismes n'auront pas du tout le même sens pour un musulman croyant, un juif croyant, un chrétien croyant, ou pour un ancien musulman, un ancien chrétien, un chercheur d'université soucieux de sa carrière, un anarchiste... un athée, un anticlérical, etc. Donc, on peut dire, en d'autres termes, on peut dire ceci, il n'existe pas, enfin c'est le point de vue que j'ai adopté dans ce cours, il n'existe pas d'islam, de judaïsme ou de christianisme en soi. Il existe autant de monothéisme, donc d'islam, de judaïsme et de christianisme, qu'il existe de perspectives et de regard à la fois porté sur ces trois religions, ces trois événements religieux. Donc, deuxième idée qu'on pourrait ajouter, c'est que ce perspectivisme, donc le mot perspectivisme est important, ne doit pas être confondu avec le relativisme. Donc c'est un point important peut-être qu'on discutera dans l'heure qui suit. On ne peut pas le confondre avec le relativisme. Et ce perspectivisme qui engage des prises de position des uns et des autres sur leur vie et sur le monde, ce perspectivisme, on le trouve à l'intérieur même des trois monothéismes, que ce soit le judaïsme ou dans le christianisme, ou comme j'espère qu'on aura le temps de le voir, dans l'islam, en particulier sous sa forme chiite. Donc ce perspectivisme est problématique, mais il commande... l'enchaînement du cours que je vais commencer aujourd'hui. Donc on peut dire que mon cours est construit à partir d'un point de vue, vous allez le découvrir au fur et à mesure du cours, mais je vais quand même, en introduction, préciser deux aspects de ce point de vue sur le monothéisme, le point de vue qui est le mien, et qui est donc celui qui commandera la suite du cours. Donc, le premier point de vue qui commande le cours que je vais commencer, on peut le qualifier d'anthropologique. Donc, c'est un premier point de vue anthropologique, au sens que les sciences humaines donnent à ce mot. Donc, c'est le premier point de vue, un point de vue anthropologique, qui est celui de la science. Le second point de vue, que je vais développer à la suite... c'est un point de vue que l'on peut donc qualifier de libertaire et qui s'inscrit dans la suite du cours que j'ai fait l'année dernière et que j'ai fait il y a 2 ans. Donc c'est un point de vue qui part de la pensée anarchiste et de ce que l'anarchisme peut dire de la religion. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par démarche anthropologique ? Donc, on peut entendre une démarche qui n'est pas religieuse, que l'on pourrait donc qualifier, les autres mots que l'on peut donner à cette démarche anthropologique, ça serait une démarche laïque ou neutre qui relèverait de la science. On pourrait dire, et c'est ce que je vais affirmer, que dans la démarche anthropologique au sens étroit du mot, on trouve un partage reconnu entre deux puissances analogues, dirait Bakounine, qui disposent de leur propre domaine d'autorité. D'un côté, on a la science, et de l'autre côté, on a la religion. Donc, on assiste à un partage, et j'insiste sur ce mot partage, dans la mesure où d'autres partages peuvent être faits. Donc, ce partage, si on voulait le qualifier de manière plus précise, on pourrait le désigner du terme d'agnostique, au sens du mot qui veut dire « je ne sais pas ». Je ne sais pas si Dieu existe. La science, pour elle-même, ne prend pas position sur l'existence de Dieu. Elle n'a pas à en tenir compte, pourvu qu'on la laisse établir les faits de son côté et raisonner logiquement avec ses méthodes sur ses faits. Ce partage entre foi et raison, religion et science, on le retrouve en astronomie, par exemple, ou dans la communauté des astronomes, vous avez des croyants et des incroyants, indifféremment, sans incidence sur la pratique de la science astronomique. J'insiste sur le mot « indifféremment », la science serait une démarche indifférente à la question de Dieu, mais ceux qui ont suivi le cours de l'année dernière souviennent de la critique que l'anarchisme peut faire de la liberté du libre arbitre, c'est-à-dire de la liberté d'indifférence. Le second point de vue qui va commander le cours, c'est le point de vue libertaire, donc que je vais adopter. Je voudrais souligner en quoi il diffère assez nettement du premier point de vue scientifique et de sa neutralité par rapport à la question religieuse. En particulier, le point de vue libertaire va introduire un autre partage que je vais essayer de préciser. Le point de vue libertaire et anthropologique, du moins j'espère vous en convaincre au fil du cours, mais il refuse, voilà l'originalité du point de vue libertaire, c'est de refuser le partage des rôles et des prérogatives entre ces deux pouvoirs que sont la science et la religion, ou toute autre cristallisation étatique ou économique par exemple. Donc, ce que le point de vue libertaire refuse, et j'espère qu'on va en discuter tout à l'heure, c'est ce partage que formulent les évangiles chrétiens dans la formule célèbre « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». On pourrait ajouter avec la modernité « et rendez à la science ce qui appartient à la science ». D'un point de vue libertaire, on pourrait ajouter « rendez au capital ce qui appartient au capital », là, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est rendu effectivement. Le point de vue libertaire n'admet pas ce partage entre science et religion, entre ce qu'il considère comme deux sources possibles de domination. Sur le terrain de l'histoire, comme pour le reste, le point de vue libertaire prétend tout recomposer autrement, la démarche scientifique, comme les aspirations et les expériences accumulées des religions. C'est pour cette raison que le point de vue libertaire peut se dire non pas seulement agnostique, à la façon des savants, mais résolument athée. Le point de vue libertaire, c'est un point de vue athée. Par athéisme, il faut entendre le refus de toute transcendance, c'est-à-dire de tout domaine réservé et de toute instance extérieure à nous, dont on dépendrait, qui commanderait ce que nous sommes et ce que nous devons faire, comment nous devons vivre. En l'occurrence, cette instance transcendante, ce serait le point de vue de Dieu, qui fixerait toute chose dans son essence et dont on dépendrait sans pouvoir connaître la réalité divine. C'est pour cette raison, je rappelle pour ceux qui ont suivi les cours, c'est pour cette raison que l'anarchisme de Proudhon et de Bakounine, par exemple, ne fait pas de différence autre qu'analogique entre Dieu, l'État, le capital ou la science. Dans cette perspective, l'État, le capital et la science constituent également, chacun dans leur domaine, des puissances extérieures, transcendantes, qui s'imposent à nous et qui prétendent régenter notre vie. Donc ces points, je commence par un point difficile, d'où ma difficulté à vous le présenter, parce que c'est effectivement le plus difficile à comprendre, ce paradoxe, qu'on pourrait formuler aussi comme ça, c'est parce qu'on refuse l'idée de Dieu comme transcendance, donc cette idée de transcendance qui s'attache massivement à l'idée de Dieu, c'est donc en refusant l'existence d'un domaine réservé à Dieu, c'est en étant résolument et radicalement athée que l'on peut s'intéresser réellement aux expériences religieuses, les réintroduire dans la sphère humaine et naturelle avec leur multitude de points de vue possibles. Grâce à l'athéisme, et à condition de ne pas le soumettre à une autre puissance totalitaire et transcendante, on peut espérer montrer comment, comme toute chose, les expériences religieuses sont porteuses d'immanence, c'est-à-dire d'une puissance intérieure à la vie et à l'expérience humaine, constitutive de leur aspiration à la liberté, à l'autonomie et au développement de ce qu'ils peuvent. Il ne s'agit plus alors, dans cette compréhension, de faire un partage, et j'en arrive au dernier point de cette introduction un peu difficile, il ne s'agit plus de faire un partage entre les pouvoirs, les domaines de pouvoir entre la science et religion en l'occurrence, il s'agit de tout prendre en compte, sans reste, ni domaine réservé, et de faire par contre un autre partage, beaucoup plus difficile, non plus entre les pouvoirs, mais entre les forces émancipatrices et les forces oppressives dans toute réalité, dont toute réalité est porteuse sans exception. Les réalités religieuses comme les autres, mais avec plus d'intensité lorsqu'on connaît l'importance du fait religieux dans l'histoire de l'humanité. Donc vous pouvez au moins noter ce point qu'on ne réglera pas. La question difficile, c'est qu'est-ce qui fait le partage entre l'émancipation et la domination ? Est-ce que la domination n'est pas une source de bonheur, l'oppression, la soumission à une autorité extérieure, est-ce que ce n'est pas une source de bonheur plus grande que la lutte pour la liberté et pour l'émancipation ? Ce problème, il est au cœur des discussions et on ne peut pas le trancher de manière extérieure, évidemment. C'est chacun qui ne peut le trancher que pour lui et là où il vit. Dernière remarque de cette introduction, et on rentrera dans le vif du sujet, elle porte sur une deuxième conséquence de ce point de vue libertaire et de ce second partage de la réalité humaine. On pourrait le formuler comme ça, parce qu'aux yeux des anarchistes, les expériences religieuses sont de part en part humaines et matérielles, sans Dieu ni transcendance. Elles sont également porteuses, à travers leur longue histoire et à côté de beaucoup d'oppression et de domination, de pratiques, d'aspirations et d'expérimentations pleinement émancipatrices, qu'il s'agit de mettre à jour, de se réapproprier et de sauver pour notre propre salut, notre propre émancipation présente. Je fais référence ici à la réflexion de Walter Benjamin, donc un philosophe et un théoricien du siècle précédent. Et avec lui, on pourrait dire que le projet libertaire ne détruit pas le passé, ne fait pas table rase du passé. Un passé indestructible qui revient sans cesse sous de nouvelles formes. Pour la pensée libertaire, on n'en a jamais fini du passé. Mais ce passé, à côté de beaucoup d'autres forces présentes, le projet libertaire prétend le répéter dans sa totalité ou le recomposer autrement et permettre ainsi à chaque tradition linguistique, à chaque société, à chaque civilisation, à chaque religion, même les plus anciennes et les plus étranges à nos yeux, d'être partie prenante d'une lutte pour l'émancipation qui ne dépend ni d'un temps ni d'un lieu, qui au contraire embrasse la totalité des expériences et des situations humaines, c'est-à-dire la diversité infinie des événements et des acteurs qui composent ces expériences et ces situations. J'en ai fini avec mon introduction, ça me soulage. Donc nous allons maintenant débuter le cours. Alors simplement, je vous ai préparé une bibliographie. Je crains, vous en prenez une pour deux, on la complétera, ceux qui n'en auraient pas par la suite. Alors la bibliographie, elle se divise en deux parties. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser chacun d'entre vous. Donc la première partie, c'est des ouvrages de base. Ça serait le premier niveau, l'école primaire. Donc c'est un peu des classiques sur l'histoire des religions. Donc le premier, c'est vous les trouvez en poche, donc c'est plus facile, sauf le livre d'Étienne Trocmé, « L'enfance du christianisme ». Je ne crois pas qu'il soit paru en poche. Donc c'est pour ceux qui ne connaîtraient rien aux histoires religieuses et qui auraient besoin de... ou qui ont oublié et qui auraient besoin de se remettre à niveau par rapport aux connaissances de base de l'histoire des trois monothéismes. La deuxième bibliographie, c'est des ouvrages plus difficiles, où là, il faudra que vous choisissez ceux qui vous intéressent. Je ne vais pas les commenter. Donc, vous avez des ouvrages qui viennent de savants et de théologiens juifs, chrétiens et musulmans, et qui abordent, ou de philosophes, et qui abordent des aspects divers de l'histoire des trois monothéismes. Donc la séance d'aujourd'hui va être nous allons la consacrer, on va commencer à la passer sur le premier monothéisme. Donc le plan suit un ordre tout simplement chronologique, et donc on va commencer par le judaïsme et par la naissance du monothéisme. Donc, mais auparavant, je vais faire un deuxième remarque un peu introductive qui va porter sur un aspect important qui englobe les trois monothéismes. C'est, on pourrait le formuler comme ça, c'est la place du monothéisme dans l'Occident, le rapport entre l'Occident et les trois monothéismes, donc qui était annoncé dans le plan du cours. Donc je voudrais simplement commencer par une remarque sur ce qu'on entend par Occident. L'Occident, c'est un terme très malheureux, puisque c'est un terme géographique, mais qui s'applique à la Terre, qui est une boule, comme vous le savez. Et donc, on est tout le monde, et l'Orient et l'Occident d'un autre, par définition. Mais généralement, du point de vue de la tradition, l'Occident tend à s'identifier, en gros, à l'Europe et au prolongement européen, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Donc ce que je voudrais essayer de montrer dans cette première séance, qui est une vision d'ensemble sur la place des trois monothéismes par rapport à nous, c'est de dire que les trois monothéismes sont constitutifs de la pensée occidentale, comme j'ai essayé de vous le montrer, et que cet Occident englobe le Moyen-Orient. Donc si le terme Occident a un sens, ça serait si on le compare à la civilisation asiatique, essentiellement chinoise ou japonaise, et toute l'Asie, où là on peut observer des différences relativement importantes, même s'il y a eu des échanges beaucoup plus nombreux qu'on le pense, mais il y a des différences importantes entre l'Asie, l'Occident européen et du Moyen-Orient, et l'Asie, avec entre les deux l'Inde, qui occuperait une place à la fois originale et une place de carrefour ou de rencontre entre les deux. Alors, qu'est-ce qui peut faire l'originalité de l'Occident et en quoi l'Occident peut englober l'histoire des trois monothéismes? On peut distinguer quatre grandes raisons ou quatre grands points qui permettent de comprendre cette originalité d'une ère de civilisation qui engloberait à la fois l'Europe et les trois monothéismes et le Moyen-Orient. Donc la première raison, le premier foyer de cette civilisation éventuelle, de cette civilisation occidentale, c'est essentiellement la Méditerranée. Donc première raison, la Méditerranée, qui se présente sous un aspect apparemment vide, puisque c'est une mer, et qui est en fait un lieu historiquement et géographiquement extrêmement peuplé. Et ceci depuis très longtemps. Donc le premier foyer de l'Occident, c'est cette mer commune, une mer à la fois grande, mais en même temps très circonscrite, où l'humanité, ou une partie de l'humanité, a intégré des échanges extrêmement nombreux. Alors, l'originalité de la Méditerranée, c'est essentiellement d'avoir servi de foyer aux échanges économiques et culturels. Donc, des échanges entre une multitude de peuples et de civilisations différentes, au nord, au sud et à l'est, qui se sont brassés les uns dans les autres, et que ce soit sur le terrain de la langue, des représentations, des mythes ou de la religion. Mais la deuxième originalité de la Méditerranée par rapport à d'autres régions du monde, c'est d'avoir été un lieu, un foyer de rencontre sur le terrain politique, ce qui est plus exceptionnel. Dans la mesure où les données naturelles ou géographiques n'ont souvent pas le même sens quand on les considère sur le terrain de la culture d'un côté, ou de l'économie d'un côté, et sur le terrain politique de l'autre. Les données naturelles, comme les montagnes, les fleuves ou les mers, servent le plus souvent de frontières politiques et religieuses. Si vous prenez, je ne vais pas développer les exemples, mais dans les exemples historiques, le Rhin, par exemple, c'est un foyer de rencontres très important sur le terrain économique et culturel des peuples du Nord jusqu'à la conquête romaine. Avec la conquête romaine, le Rhin devient une frontière. Ça continue de jouer un rôle, heureusement, le politique a toujours les yeux plus gros que le ventre. Donc le Rhin continue d'être un foyer d'échange très important, mais en même temps ça devient une frontière, de la même manière que les chaînes de montagnes peuvent servir de frontière. Vous pouvez prendre les Pyrénées avec les Basques et les Catalans qui sont séparés d'un côté et de l'autre, ce qui est un lieu d'échange. Les Pyrénées sont un lieu d'échange de culture et un lieu d'échange économique. Sur le terrain politique, ça devient un lieu de séparation et de division. Les drapeaux ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas la même, les képis des douaniers sont différents, etc. Enfin, ça permet aussi la contrebande, où le commerce rappelle toujours ses droits. Donc l'originalité de la Méditerranée, une originalité qui a été masquée par une longue période de séparation, une séparation politico-religieuse, on pourrait dire, entre le Nord et le Sud, puisque d'un côté vous avez le Nord chrétien, et le Sud, en gros, musulman, massivement musulman, et donc la Méditerranée a servi de séparation entre les deux. Mais l'originalité de la Méditerranée, c'est d'avoir été pendant plusieurs millénaires, pendant près de 2000 ans, un lieu d'unité politique, c'est-à-dire d'être aussi un foyer politique, sous la double forme d'un foyer grec, très longtemps, et qui a duré jusqu'à la fin de l'Empire romain, avec les conquêtes d'Alexandre et les royaumes grecs qui vont se constituer en Égypte, dans le Moyen-Orient et en Grèce, et ensuite l'Empire romain. Donc l'originalité de cette région du monde, par rapport aux quelques autres régions du monde que l'on connaît, cette originalité, elle vient de l'existence d'un empire qui a le vide pour centre mais un vide extrêmement peuplé par les échanges culturels et les échanges économiques. Donc l'Empire romain, contrairement aux autres grands empires, enfin, il y a de 36 formes d'empires, mais par exemple, contrairement à l'Empire chinois qui est un empire territorial, et contrairement à beaucoup d'autres logiques impériales qui sont territoriales, l'Empire romain, sa grande originalité, c'est que son centre, c'est la mer. D'où un lieu, un des fondements de notre civilisation, c'est la rencontre entre le nord et le sud, et la rencontre entre un grand nombre de traditions culturelles qui se sont opérées sur une très longue période dans le cadre des échanges de la Méditerranée. Deuxième raison, deuxième aspect qui permet de comprendre la spécificité du monde occidental et surtout de comprendre en quoi les trois monothéismes sans exception participent de cette histoire occidentale, cette deuxième raison, eh bien, c'est justement le monothéisme. Donc la première, c'était la Méditerranée. La deuxième raison, c'est le monothéisme, qui est une spécificité à cette région du monde. Les expériences religieuses que nous connaissons prennent des formes multiples, un grand nombre de formes, comme l'animisme par exemple, des formes religieuses relativement dispersées et dans des divinités, des forces surnaturelles multiples, ou dans des formes diverses de polythéisme. Mais il y a une région du monde où historiquement, il y a à peu près 3000 ans, 3-4000 ans, est apparue une forme religieuse particulière, qui est le monothéisme, c'est-à-dire l'existence d'un seul Dieu, d'une entité religieuse qui concentre en elle-même la totalité des forces surnaturelles, qui ont tendance à se répartir autrement dans d'autres traditions religieuses. Donc, une des spécificités du monothéisme consiste bien dans le pôle extrême d'une réalité surnaturelle concentrée en un seul point, alors qu'à l'autre pôle, on trouverait l'animisme, par exemple, où c'est l'ensemble des réalités humaines qui sont traversées par ce qu'on pourrait appeler du surnaturel. Donc entre l'animisme et le monothéisme, vous avez tout l'éventail de formes religieuses qui intéressent directement la façon dont les êtres humains conçoivent leur vie et conçoivent le bonheur, la liberté et l'oppression. Troisième grande raison, ou troisième piste pour expliquer la naissance de l'Occident. Donc, d'une certaine façon, ce troisième point, qui va expliquer le quatrième sur lequel je serai rapide, ce troisième point permet de comprendre l'originalité de l'Occident, la double originalité de l'Occident. La première originalité, on l'a vu, c'est le monothéisme, que l'on trouve pratiquement nulle part ailleurs. Mais la deuxième grande originalité, ce sera l'invention de la philosophie et de la philosophie grecque. On peut dire que l'Occident est né de deux inventions, de deux bizarreries, le monothéisme et la philosophie grecque, et c'est ces deux bizarreries dans leurs relations qui serviront de fil conducteur également dans le cours pour les séances suivantes. Donc la philosophie grecque apparaît à peu près au même moment que le monothéisme, c'est-à-dire à peu près au début du premier millénaire avant l'ère chrétienne. Donc l'apparition est concomitante, mais par contre, ces deux originalités, ces deux points originaux, apparaissent dans deux ères culturelles assez nettement, radicalement différentes. Je vais insister sur les différences qui me semblent fondamentales, mais il faudrait évidemment préciser, parce que ça paraît contradictoire avec le premier point que j'ai développé tout à l'heure, c'est qu'en fait il y a toujours eu des échanges. Je vais durcir un peu la différence et les oppositions entre ces deux aires culturelles, mais les échanges existent depuis très longtemps et il y a beaucoup de points de passage entre les deux. Mais on peut dire malgré tout que l'origine est très nettement différente et que le résultat va être lui aussi très nettement différent. Les trois monothéismes ont pour caractéristique de naître dans la péninsule arabique, dans un monde que l'on peut qualifier de sémite. Donc les trois monothéismes ont une origine sémite, c'est-à-dire une ère culturelle et une civilisation que l'on trouve dans le Moyen-Orient actuel, qui n'est pas la seule, mais qui est une des traditions et une dimension de civilisation très importante. Donc cette ère sémite, on peut la faire remonter aux premiers empires babyloniens, donc plusieurs millénaires bien avant la naissance du monothéisme, puisque cette ère sémite, on la trouve déjà dans les empires babyloniens qui prennent la suite de Sumer, essentiellement à travers un peuple qu'on appelle, j'ai pas de tableau, les Akkadiens, qui sont les premiers grands empires dans cette région, la région en gros de l'Irak actuel, avec Bagdad comme centre où on trouve toutes les capitales de cette civilisation. Donc quelle est la spécificité du point de vue anthropologique de cette civilisation? C'est essentiellement la langue. Donc le monothéisme va naître dans une ère culturelle qui est marquée par une langue ou des familles de langues, une famille de langues particulières, et donc des systèmes de mythes et de représentations tout aussi particulières. Donc les langues sémites, j'ai signalé les vieilles langues acadiennes, mais ce sera les langues, les différents dialectes araméens, et puis évidemment l'hébreu et l'arabe et les différentes langues donc araméennes. Alors le point important à noter, c'est que la philosophie grecque se rattache à une toute autre ère géographique et historique qui porte en particulier sur une famille de langues complètement différentes, puisque ce sont des langues que l'on appelle traditionnellement des langues indo-européennes. Alors ce qu'il faut voir, c'est que cette famille de langues met en œuvre d'autres structures linguistiques, d'autres grammaires, d'autres vocabulaires. Autre différence avec les langues sémites, c'est que les langues indo-européennes se manifestent dans une ère géographique et historique beaucoup plus importante que les langues sémites, puisqu'en gros, la famille des langues indo-européennes recouvre la quasi-totalité des langues européennes, donc des langues slaves, des langues germaniques, des langues anglo-saxonnes, des langues latines, des langues grecques, avec quelques exceptions comme le basque. Enfin, s'il y a des linguistes dans la salle plus compétents que moi, ils me corrigeront. Mais comme le basque ou le hongrois, et un grand nombre d'autres langues minoritaires qui existaient en Europe, les langues indo-européennes, on les trouve également, comme le mot veut l'indiquer, on les trouve en Inde, donc une partie de l'Inde où il y a une grande quantité de langues différentes et de familles de langues différentes, on trouve une tradition très importante de langues indo-européennes, en particulier dans les textes et les mythes grecs, la mythe indienne qui a été à l'origine de la civilisation indienne. Enfin, ces langues indo-européennes, on les trouve également au Moyen-Orient, en particulier dans la suite du cours, on verra ça quand on parlera de l'islam, on les trouve dans l'Iran actuel, donc dans les anciens empires perses ou hittites, qui sont des langues indo-européennes, mais si on prend la géographie actuelle, vous les trouvez en Iran, vous les trouvez chez les Kurdes, dont on parle, qui font l'actualité actuellement, donc les Kurdes ont une langue indo-européenne. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une différence très grande entre, d'un côté, la relative le caractère relativement réduit de l'ère civilisation où va naître le monothéisme, et de l'autre côté, l'ère de civilisation qui va produire la philosophie grecque. Simplement, vous notez un point très important, c'est que la philosophie grecque, c'est quand même un point très limité, très original, mais très limité au sein des traditions indo-européennes. Donc en fait, il n'y a pas de différence très grande du point de vue de la bizarrerie, ou de l'originalité plutôt, entre la naissance de la philosophie grecque et le monothéisme. Par contre, on peut signaler d'emblée qu'entre le monothéisme, les trois monothéismes, et donc le monothéisme juif, puisqu'on va commencer par lui, et la pensée de la philosophie grecque, on peut repérer des différences radicales, ces deux visions du monde relativement, non pas opposées, mais différentes. Et cette différence, elle tient à la nature linguistique, aux différences linguistiques entre les deux aires de civilisation. D'où un problème que je voudrais souligner sur l'importance de la langue, on voit bien ça dans le monothéisme, mais également sur l'importance de la langue pour toute réalité humaine et toute capacité des êtres humains à se représenter le monde et à vivre dans le monde. C'est un point sur lequel je reviendrai, à savoir le fait que la langue consiste essentiellement à mettre des mots à la place des choses. Et en fait, la langue, c'est une manière de construire le monde en fonction du génie ou de l'originalité de cette langue. Donc ça veut dire que si vous avez des langues différentes, la construction du monde sera relativement différente et on ne peut pas dire les mêmes choses dans une langue ou dans une autre. D'où un problème qui est un problème tout à fait contemporain, dont on pourra discuter si vous voulez, qui est le problème de la traduction. Comment passer d'un texte à un autre? Et on verra, je l'ai indiqué dans le plan du cours, comment cette question va être une question centrale dans l'histoire du monothéisme et dans le rapport du monothéisme avec l'ensemble des civilisations de cette région du monde. Alors, sur la question de la langue, je vais compléter la bibliographie. J'ai pas l'heure, je sais pas quelle heure. Ah, si, c'est bon. Je vais compléter la bibliographie que je vous ai donnée, donc sur la spécificité, l'originalité des langues indo-européennes. Je vous signale deux grands savants, c'est des travaux classiques, donc c'est pas forcément la recherche la plus récente. Donc, les premiers travaux, c'est les travaux d'Émile Benveniste, Benveniste comme le nom se prononce. Donc un grand linguiste, je vous donne, qui est né en 1902, qui est mort en 1976. Et donc son œuvre majeure sont essentiellement des articles ou des cours qui ont été, des articles qui ont été regroupés. Le livre que vous pouvez consulter, c'est Problème de linguistique générale. Problème de linguistique générale, on le trouve en poche chez Gallimard. Deuxième auteur très important, qui est également un linguiste, mais aussi un anthropologue des mythes et des représentations et qui a joué un rôle déterminant au XXe siècle, c'est Georges Dumézil, D-U-M-E-Z-I-L, Georges Dumézil, donc qui est mort en 1986 et qui était né en 1898, donc né en 1886. Donc je ne vais pas... C'est difficile de choisir dans l'œuvre de Dumézil les livres les plus importants. Je vous conseille de lire, parce qu'on trouve en poche également, c'est Mythes et épopées. Il y a trois volumes, trois gros volumes. Donc c'est une étude des mythes et des épopées de l'ère indo-européenne, et qui ont été publiés chez Gallimard, collection Quarto, donc en 1995, j'espère que ce n'est pas épuisé. Quatrième, donc on a vu la Méditerranée, le monothéisme, la philosophie grecque. Le quatrième point qui est le fondateur de ce que l'on pourrait appeler l'ère culturelle de l'Occident, ce quatrième point, c'est la conséquence des deux précédents, c'est la tension, c'est un point de tension, mais extrêmement productif du point de vue de la pensée et de la vie, c'est la tension entre le monothéisme et la philosophie grecque. Et donc on verra au fil du cours comment, du judaïsme à l'islam, en passant par le christianisme, comment a joué cette tension entre la philosophie et la religion, entre la philosophie grecque et le monothéisme sémite, entre la foi et la raison. Donc on trouve ici à la fois un fil conducteur très fort et en même temps un point réel déterminant de l'originalité, parmi plein d'autres originalités dans le monde, de l'originalité de ce que l'on appelle l'Occident. Donc je rappelle simplement, mais je ne veux pas le préciser, non je vais laisser de côté, cette rencontre historique, les points importants c'est évidemment la domination grecque et romaine avec à partir de la deuxième moitié du premier siècle avant Jésus-Christ. Donc Alexandre et ensuite l'Empire romain. Et on sera amené à revenir là-dessus et on peut en discuter autant que vous voulez dans les limites de ma compétence au cours de la discussion. Donc je voudrais maintenant, donc il doit rester un quart d'heure, si je déborde un peu, mais je vais essayer de ne pas perdre trop de temps, de prendre du retard dès le départ. Donc nous allons attaquer le cours, il va se diviser en trois parties, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et donc nous commençons la première grande partie, après les deux points d'introduction, qui vont donc porter sur le judaïsme. Donc comme l'indique l'intitulé du cours, je vais essayer de rappeler des choses que vous êtes nombreux à connaître, je pense, qui tournent autour d'une question. Que sait-on sur les origines du judaïsme? Et donc cette question, il faut l'élargir, puisque c'est que sait-on sur l'origine du monothéisme? Alors je rappelle que pour cette connaissance, on a la chance, il y a d'autres religions qui sont dans le même cas, on a la chance de disposer d'un livre, d'un texte, ou plus précisément d'un recueil et d'une compilation de textes, donc la Bible. Et dans cette compilation de textes, on trouve un noyau central très important pour connaître l'origine du monothéisme, à savoir la première partie de la Bible, que l'on appelle la Torah en hébreu et que l'on appelle le Pentateuch en grec. Donc déjà, on retrouve nos deux piliers contradictoires. Donc on peut déjà penser la Torah et le Pentateuch désignent la même chose et en même temps, c'est pas pareil. Voilà, c'est un point qu'on pourrait déjà souligner. Donc je rappelle, si il peut m'arriver de dire des bêtises, vous me corrigerez immédiatement. Donc je rappelle que la Torah, je vais en profiter pour rappeler un peu les origines du monothéisme. Donc la Torah est constituée de 5 livres, Pentateuque comme l'indiquait le mot grec. Donc le premier livre, c'est la Genèse. Donc je laisse un peu de temps pour les incultes en religion pour noter ça. Donc la Genèse qui raconte la création du monde, l'histoire d'Adam et Ève, Noé, le déluge, enfin je rappelle des choses qu'on connaît tous, et le début de l'histoire des patriarches. Oui, allez-y. Vous voulez dire quelque chose?
Non.
Ah bon, non, vous leviez la main. Non, j'ai dit, j'ai oublié quelqu'un. Donc les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Donc le premier livre porte là-dessus. Le deuxième livre, c'est l'Exode. Donc c'est pour nous rafraîchir la mémoire sur la naissance du monothéisme. Donc il raconte le séjour des Hébreux en Égypte, la fuite avec Moïse, et point très important, c'est les 10 commandements dans le Sinaï que Dieu donne à Moïse. Donc les tables de la loi. Le troisième livre est très important pour d'autres raisons, c'est le Lévitique. Donc là, on a affaire à un texte très différent. La Bible est faite de textes extrêmement différents. Et c'est un texte législatif, civil et religieux, donc qui fixe des rituels religieux, le temple, les sacrifices, les calendriers, mais aussi la vie civile. Donc c'est ce qui constitue. Et la vie civile, j'insiste sur un point important, sur la distinction entre le pur et l'impur. Un point qu'on peut noter dans un coin, parce que c'est un point très important dans l'histoire du monothéisme. Quatrième texte, c'est le livre des Nombres, qui raconte le départ des Hébreux du Sinaï vers Canaan, vers la Palestine. Et enfin, le cinquième livre, le Deutéronome, qui de nouveau expose des lois civiles et religieuses avec des discours de Moïse qui encadrent ce texte. Voilà, je vous rappelais uniquement ça pour que vous sachiez en gros ce qu'il y a dans les cinq livres de la Bible. Alors, dans la première partie de ce cours, je vais répondre à des questions très précises. Enfin, du moins, la réponse sera... Les questions sont précises, les réponses le sont peut-être moins. La première question, c'est de quand datent les textes de la Bible ? Voilà, c'est une question scientifique et anthropologique. De quand datent les textes les plus anciens de la Bible, donc ceux de la Torah ? Et enfin, deuxième question, où on se tournera vers l'anthropologie, mais pas uniquement, quel est le contexte politique, culturel, social et économique qui a produit ces textes, qui les a vus naître? Alors à ces deux questions, je vais développer rapidement trois réponses. Vous avez une première réponse qui est la réponse de la Bible elle-même et surtout de la tradition religieuse qui s'est référée à la Bible. Donc je rappelle, dans cette tradition, on a une sorte de préhistoire et de la révélation divine, mais on a une histoire totale puisqu'on a aussi la création du monde. Donc on a une histoire du monde et de l'homme dans le monde par rapport à Dieu. Donc si on prend, on a un repère institutionnel très important qui est celui du calendrier juif, donc non plus l'ère chrétienne, mais si on prend le calendrier juif, qui est le résultat de grands débats, de grandes discussions, et qui ne doit pas faire encore complètement l'unanimité, la construction du calendrier juif opère à partir d'une interprétation scientifique de la Bible. Comment, en quoi la Bible permet, en connaissant l'âge des patriarches, etc., de déterminer la date précise de la création du monde. Donc dans la Bible, l'ère juive commence avec la création du monde, donc en 3761, on verra quand on étudiera l'histoire biblique, toute la manière de discuter pour établir une date aussi précise, donc 3761 avant Jésus-Christ, qui est donc le moment où on a créé le monde, donc il y a à peu près 5500 ans. Donc en gros, vous avez une histoire du peuple juif qui a été construit à partir des données de la Bible. Donc je vous donne quelques repères, mais je vais être rapide. On a Abraham qui vient de la région de la Mésopotamie, qui vient d'Ur, les cruciverbistes doivent tous connaître le nom, donc et qui vient à peu près en 2000 avant Jésus-Christ. On a ensuite le séjour en Égypte de Joseph, qui est l'arrière-petit-fils d'Abraham, vers 1700. Et enfin, on a Moïse, la grande figure du judaïsme, donc qui a pratiquement l'équivalent, Moïse est l'équivalent de Mahomet et de Jésus. Donc la tradition religieuse situe en gros, à travers des tas de discussions, en 1300 avant Jésus-Christ. Donc on assisterait ensuite, je rappelle rapidement l'histoire du peuple inventeur du monothéisme, on assiste ensuite à la conquête de la Palestine, qui débouche sur la création d'un puissant royaume, donc le royaume de David et de Salomon, donc au XIe et au Xe siècle avant Jésus-Christ. À partir de cette période, les dates deviennent plus précises, tout simplement parce que les textes de la Bible permettent de l'établir. Donc le royaume, je rappelle que le royaume de Salomon et de David se coupe en deux, se divise, avec au nord le royaume d'Israël, qui est un royaume relativement important, et au sud, un royaume plus petit, le royaume de Juda, avec la tribu de Juda, l'essentiel des tribus, on parlera de ça si vous voulez aussi, sur les tribus du peuple hébreu, donc l'essentiel des tribus est dans le royaume d'Israël, et la tribu de Juda, le royaume au sud. Ces deux royaumes vont durer un certain nombre de décennies et de siècles, et le royaume, je rappelle des dates alors là qui sont très précises, qui ne sont pas simplement des dates religieuses, le royaume d'Israël est détruit en 721 avant Jésus-Christ par l'empire assyrien, un des nombreux empires du Moyen-Orient. Donc en 721, le royaume d'Israël est détruit. Une partie de sa population, comme ça se pratiquait à l'époque, une partie de sa population est déportée, et on verra que ça a des conséquences déterminantes sur l'histoire du judaïsme. Le petit royaume de Juda récupère l'héritage hébreu par la suite, et il finit par être vaincu à son tour en 587, donc oui, c'est une période assez longue, par le nouvel empire de l'époque qui est à Babylone, qui est babylonien. Et là, un événement très important à noter, donc je ne sais pas si vous avez bien noté la date, 587, c'est que le temple de Jérusalem est détruit. Je reviendrai sur cette question, on reviendra plusieurs fois sur cette question du temple, et une partie de la population juive de la Palestine est déportée à l'est, en particulier à Babylone, la capitale de l'empire, le grand empire du même nom à l'époque. Donc on a des données historiques assez précises là, où les données religieuses rencontrent les données historiques. On évalue à peu près à 15 000 les déportés, la population déportée vers Babylone, et il reste à peu près 75 000 habitants dans le royaume de Juda. Donc le point important à noter, c'est que la Palestine gardera toujours une population juive, malgré les déportations. Je vais examiner rapidement les deux... On avait passé l'heure, non ? Non, il faut suivre. Déjà, je ne suis pas le plan. Je ne suis pas l'ordre des... Alors, donc, deux réponses. Ça, c'est la réponse religieuse que j'ai retracée. On reviendra, si vous voulez, dans la discussion sur cette réponse. Les deux autres réponses, c'est les réponses historiques et anthropologiques. Donc, vous avez une première réponse qui est relativement dépassée, mais récemment. Donc, je vais vous présenter rapidement. Et cette réponse, vous la trouvez en particulier dans la bibliographie que je vous ai donnée, autour de la Bible. En gros, les historiens et les spécialistes se réfèrent plutôt à cette tradition. Donc dans cette tradition, comment on pourrait la résumer rapidement? On pourrait dire que les savants considéraient que l'histoire vraie, historique du peuple juif commençait avec le royaume de David et de Salomon, donc au XIe siècle. Donc la position, en gros, je résume rapidement, c'est de dire que les textes de la Bible auraient été codifiés vers le XIe et le Xe siècle à partir de traditions plus anciennes, de traditions orales principalement, qui conduisaient les historiens et les spécialistes à dire que l'histoire de Moïse ou d'Abraham avait, sinon celle de Noé ou d'Adam, avait un fondement historique. Donc c'est un peu la position qui sous-tend une partie de la bibliographie que je vous ai donnée. La seconde réponse anthropologique ou scientifique actuelle, introduit des changements assez nettement différents dans cette interprétation qui a duré une petite centaine d'années. Donc je vous renvoie à un livre qui fait le point sur ces transformations. Il est indiqué dans la bibliographie. Donc ceux qui ont la bibliographie, vous regardez le livre d'Israël Finkelstein et Ney Siberman, La Bible dévoilée, les nouvelles révélations de l'archéologie. C'est un livre un peu grand public, mais qui en même temps est très savant, et ça surtout s'appuie sur des travaux très savants. Vous avez peut-être vu à la télévision, il y a eu deux fois l'émission, il y a une émission qui a été faite aussi avec ces deux archéologues israéliens. Donc je résume rapidement les données de cette approche anthropologique. Un de ses fondements, c'est le lien entre la recherche archéologique et la critique des textes. Donc c'est aussi vieux que le début de la science en Palestine. C'est très vite, les savants ont essayé de trouver en Palestine les lieux décrits dans la Bible. Donc il y a eu une accumulation de travaux considérables depuis le début du XXe siècle, et on dispose maintenant de données. Cette petite région de la Palestine a été fouillée dans un grand nombre de tous les endroits les plus discrets ont été fouillés par les archéologues, donc on a un grand nombre de connaissances. Donc ce qui ressort de ces travaux archéologiques, c'est qu'on retrouve beaucoup de choses du royaume d'Israël. Je résume, on trouve beaucoup moins de choses sur le royaume de Juda, sauf à la fin, quand le royaume d'Israël a disparu, mais le grand problème, c'est qu'on ne trouve, à ce stade, au moment où je vous parle, on trouve très peu de données sur le royaume de Salomon, qui était censé être un royaume considérable et qui aurait dû laisser des traces archéologiques que l'on ne retrouve pas, que l'on a cru retrouver, mais dont on a la certitude maintenant que ce ne sont pas les traces du royaume de Salomon et de David. D'où une nouvelle interprétation, une nouvelle hypothèse scientifique sur la naissance de la Bible, qui consiste à rapprocher de nous le moment de la codification des premiers textes de la Bible, essentiellement des textes de la Torah. Donc la nouvelle date de cette codification, on la situerait à la fin de l'histoire du royaume de David, donc au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc on la rapprocherait de 300 ans ou 400 ans de nous, et on la situerait sous la royauté des derniers rois de Juda, qui s'appelle Josias, J-O-S-I-A-S, qui a vécu de 642 à 609 de l'ère chrétienne. Avant, mais les chiffres indiquent bien que c'est, si je peux me permettre une remarque, 642, 609, c'est forcément avant. Voilà. Donc Josias, c'est un des derniers rois de Juda, et c'est sûrement le roi le plus important. Donc l'histoire est assez simple, c'est que le royaume important, c'était Israël, qui a compté dans la géopolitique. Alors essayez de vous représenter la Palestine. C'est une zone tampon entre les empires du Moyen-Orient et l'Égypte. Hein. Donc vous avez un grand nombre de royaumes, des tout petits royaumes, on reviendra un peu là-dessus, donc des royaumes, les Nabatéens, à Damas vous avez un royaume, des royaumes en gros sémites, avec des populations très mélangées, mais sur la côte, il y a eu aussi un reportage à la télévision très bien fait, sur les peuples de la côte ou les peuples de la mer, où on sent bien que c'est des Grecs qui constituaient ce qu'on appelle les Philistins, ou les ancêtres des Philistins, qui ont contribué, disons-le tout de suite, ça on peut l'établir, qui ont contribué à la constitution du peuple hébreu. Le peuple hébreu est un peuple très composite, où on trouve comme on le verra, comment les peuples se constituent à l'époque. Donc parmi ces petits royaumes, il y a le royaume d'Israël qui a compté, le royaume de Juda. Ça devait être une autonomie politique, était beaucoup plus faible, et en fait, le royaume de Juda récupère la, l'importance d'Israël, en particulier sous Josias, et la conjoncture internationale fait que ce royaume de Juda va acquérir une autonomie assez grande, une puissance très relative, hein, c'est des royaumes qui ont été à 300 000 habitants, c'est le grand maximum, va acquérir une puissance relative, va acquérir cette puissance et va finir par irriter son patron, le protectorat que faisait régner l'empire de Babylone, les Babyloniens, et les Babyloniens enverront une armée et vont détruire donc le royaume de Juda comme ça se pratiquait à l'époque. Donc l'élément important que les historiens vont mettre en évidence, c'est que cette constitution du royaume de Juda sous Josias va coïncider avec la mise au point d'une tradition religieuse beaucoup plus ancienne, mais très forte. On reviendra sur l'ancienneté, sur comment ça se constitue. C'est-à-dire que sous le royaume de Juda, le judaïsme va se constituer autour de trois grands piliers. Premier pilier, une dynastie royale, donc une dimension politique, un royaume avec le royaume avec la dynastie de David. C'est le premier pilier qui, comme vous le constatez, va durer très peu de temps. Le deuxième pilier du judaïsme, ça va être le temple de Jérusalem. Et donc on ne comprend rien au texte de la Bible si on ne voit pas comment ce temple unique se construit contre d'autres versions juives, en particulier celle d'Israël, puisque quand il y a deux royaumes, il y a forcément plusieurs lieux de culte. Donc si vous relisez la Bible, on discutera sur ces textes-là. Enfin, dernier élément, c'est le livre. Et c'est sous Josias que seraient codifiés les quatre textes plus anciens de la Bible, plus un certain nombre d'autres qui vont compléter l'histoire du peuple hébreu. Alors, simplement, voilà, donc on pourrait dire ça, et je vais terminer. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que cette codification, donc ce que les travaux des textes et tous les éléments dont on dispose permettent de dire, c'est que cette codification opère à partir de textes plus anciens. Donc, de nouveau, on retrouve une profondeur dans le champ de l'histoire du peuple hébreu, une profondeur qui n'est plus seulement orale, puisque le livre des rois et un certain nombre d'autres textes s'appuient manifestement sur des annales royales. Donc ça veut dire qu'Israël et puis Juda disposaient déjà d'une tradition religieuse écrite, voilà ce qu'on peut dire, mais par ailleurs ça entraîne un doute beaucoup plus grand sur l'histoire antérieure dont on avait déjà pas mal de doutes, c'est-à-dire sur Moïse, Abraham et évidemment les événements antérieurs, sans parler d'Adam et Ève. Donc les historiens ont établi un grand nombre de choses, donc on va pouvoir en discuter peut-être parmi vous, puisqu'on est à l'université populaire, il y a sûrement des gens qui ont des compétences plus grandes que moi dans ce domaine. Les travaux historiques vont permettre de voir comment un certain nombre d'éléments qu'on croyait acquis jusqu'à maintenant ne l'étaient pas. Par exemple, c'est évident que on connaît beaucoup mieux les rapports entre l'Égypte et la Palestine, et régulièrement, pour des raisons économiques, pour des raisons politiques, la population de Palestine, de la population de Palestine partait vers l'Égypte, soit pour trouver du travail, soit parce qu'ils avaient faim, soit pour se réfugier pour des raisons politiques. Donc, par exemple, un des grands points très importants de l'histoire de la Bible, c'est la conquête de la Palestine et la conquête de Canaan. Il faudrait l'interpréter religieusement et anthropologiquement pour comprendre ce que ça signifie, mais manifestement, le peuple hébreu, les Juifs, qui vivaient en Palestine, n'ont jamais quitté la Palestine. Ils y arrivent aussitôt que les autres, puisqu'en fait, entre eux et les autres, il n'y a pas tellement de différence. Et cette histoire de conquête est une reconstruction qui a un sens très important d'un point de vue anthropologique, mais un sens religieux. Voilà.